Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 18, toujours continuons le sujet du salut. Le salut étant vraiment le plus important de tout, car sans être sauvé, on est hélas perdu. C'est assez sérieux, pour ne pas dire très sérieux, et je ne me permettrai pas de vous annoncer quelque chose de fantaisiste. Vous allez vous en apercevoir tout de suite. On pourrait donner comme titre ce matin « Au tribunal ». Et vous constaterez qu'il existe pas seulement des tribunaux ici sur Terre, mais il existe un tribunal dans le ciel, un, le plus sérieux. On sait que dans certains pays, on change de président tous les 4 ans. Cet événement s'accompagne de certains changements, mais aussi au Congrès et dans bien des palais de gouverneurs. Quand un élu va être remplacé par son successeur, il lui arrive parfois de gracier des prisonniers sous sa juridiction. Et il est toujours intéressant de voir qui sont les bénéficiaires de ces faveurs de la dernière heure. Si vous et moi étions en prison et qu'on nous dise « vous êtes libre », le président vient de vous gracier. Nous ne serions pas longs à faire nos bagages et à sortir. Cette grâce bouleverserait notre vie. À la cour du roi des rois, une grâce est bien plus encore. À la croix, non seulement l'homme qui croit au Christ est gracié par Dieu de sa punition, mais il est en même temps reçu à bras ouverts dans la famille royale. Dieu nous accueille en sa maison. Non seulement nous sommes acquittés à la croix, mais nous sommes aussi justifiés, c'est-à-dire déclarés sans péché. Non seulement pardonnés, mais encore accueillis à bras ouverts. Nous venons de voir comment Dieu lui-même a pris sur lui le fardeau de notre péché, en souffrant pour nous. Nous allons voir que la croix va bien au-delà du pardon. Il ne s'agit pas seulement du fait que le sang de Jésus nous lave de tout péché, il s'agit aussi de sa justice. Le mot clé est « justifié ». La Bible dit « justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Romains chapitre 3, verset 24. N'hésitez pas à noter quelques-unes des citations bibliques que je vous donne, car ça peut être très utile. Chers amis, même si nous nettoyons nos vies de notre mieux, et si nous croyons que tout est en ordre, lorsque nous nous trouvons sous les projecteurs éblouissants de la Sainte Parole de Dieu, dans la lumière de la sainteté de Dieu, eh bien toutes les toiles d'araignée et la poussière que nous n'avons pas remarquée surgissent tout à coup. Imaginons une salle de tribunal. Dieu est assis sur le siège du juge, revêtu de sa togue et de son hermine. Vous comparaissez devant lui. Il vous juge selon les exigences de sa justice qui s'exprime par sa loi morale. Il s'adresse donc à vous. Dieu vous demande, Jean ou Marie, m'avez-vous aimé de tout votre cœur? Jean ou Marie répondent, non, monsieur le juge. Dieu, avez-vous aimé votre prochain comme vous-même? Jean ou Marie, non, monsieur le juge. Dieu, reconnaissez-vous que vous êtes coupable et croyez-vous que Jésus-Christ soit mort pour vos péchés? Jean ou Marie répondent, oui, monsieur le juge. Et Dieu pose encore la question, votre punition, croyez-vous qu'elle a déjà été payée par Jésus-Christ sur la croix? Si vous le croyez, eh bien vous êtes donc acquitté. Je suis donc pardonné, mais on m'offre beaucoup plus. Pardon. J'ai dit, je suis donc acquitté, mais on m'offre beaucoup plus, malgré que je suis déjà pardonné. La Sainte Bible déclare en effet que Dieu, dans sa grâce, accorde à celui et à celle qui croit en Jésus-Christ le don de la justification. Notez Romains, chapitre 3, verset 4. C'est plus qu'un simple pardon. Voyez-vous, si je suis un criminel gracié par le président ou le gouverneur, tout le monde sait que je suis toujours coupable de mon crime. Je n'ai pas servi tout le temps de ma peine, voilà tout. Mais être justifié, c'est un peu comme si je n'avais jamais rien fait de mal. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, nous recevons à la fois le pardon et la justification. D'un côté, Dieu pardonne notre faute en raison de la mort du Christ. Il a subi notre punition. De l'autre côté, Dieu nous déclare juste, c'est-à-dire non coupable. Dieu dit, en raison du fait que Jésus est juste et que vous croyez dans le Christ, je vous déclare légalement juste. Comment Dieu peut-il faire cela tout en restant juste, alors que sa loi condamne à mort le pécheur? La solution, on peut bien dire que la solution de ce fameux problème, c'est la justice de Jésus-Christ, car il a vécu une vie parfaitement intègre. Tout le comportement de Jésus-Christ n'a jamais démenti son affirmation qu'il était d'essence divine. Il est donc facile d'admettre que Dieu déclare juste Jésus-Christ, et il l'a été en vérité. Mais en quoi ce fait me concerne-t-il, moi, qui suis un pécheur? L'apôtre Paul nous l'explique dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il dit, nous citons ainsi le texte en remplaçant les pronoms personnels par leurs antécédents. Voilà ce qu'il dit. Jésus-Christ, lui, qui n'a point connu de péché, Dieu le Père l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, la justice de Dieu. Dieu a mis mon péché sur son Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui n'avait pas commis de faute. Il l'a puni à ma place, comme nous l'avons vu. Mais d'après ce texte, il a fait un pas de plus. Dieu a pris l'initiative de mettre la nature juste du Christ sur nous qui croyons, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le juge, Dieu le Père, vous a légalement attribué la justice intégrale du Christ. Si vous avez cru en Jésus-Christ, eh bien, vous êtes maintenant justifié. Ensuite, quand il vous examine à la lumière de sa loi, que voit-il? Il voit vos actes mauvais et vos pensées coupables, ainsi que vos fautes passées et également vos fautes présentes. Nullement. Non. Et non. Il ne voit aucun de vos péchés maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transférés sur le Christ, quand Dieu a permis qu'il soit pardonné. Quand il vous voit, il voit autre chose. Il voit l'intégrité de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Mais vous me direz, pourtant, je suis resté un pécheur. C'est vrai et c'est en même temps faux. Si vous voulez dire que votre statut légal devant Dieu, c'est que vous êtes un pécheur, alors maintenant c'est faux. Légalement, pour lui, pour Dieu, vous êtes devenu juste. Votre statut a été réglé, avez-vous entendu, par la décision du tribunal qui vous a déclaré innocent juridiquement. Si vous voulez dire que vous êtes toujours capable de mal faire, alors la réponse est malheureusement oui. Bien sûr, vous n'êtes pas parfait, et moi non plus. Vous pouvez toujours penser et agir contrairement à la volonté de Dieu, malheureusement. Mais ce n'est pas tant notre comportement que notre statut légal qui compte ici. Car face à la loi de Dieu, nous sommes non coupables, donc nous sommes maintenant justes. Quelqu'un a posé la question, suis-je libre de pécher? Aime Dieu et fais ce que tu voudras. Cette parole nous laisse-t-elle libres vraiment de pécher à notre guise? Pouvons-nous sortir du tribunal où nous venons d'être acquittés en faisant ce qui nous passe par la tête, n'importe quoi? Oui et non. Mais nous sommes maintenant nés de nouveau. Nos désirs devraient avoir changé. Ce fut mon cas. et nous n'avons plus la même attitude envers le mal que nous faisions. Si vous avez fait confiance à Jésus-Christ, si vous avez vu l'amour, l'amour sans limite qu'il a eu pour vous sur la croix, vous direz avec l'apôtre Paul, « L'amour du Christ me presse. » 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Les changements intérieurs que Dieu opère dans notre nature, ils dépendent de notre changement de statut. Si nous avons fait confiance au Christ, nous qui méritions d'être condamnés, nous avons été déclarés justes. Pouvez-vous imaginer l'effet que ferait une manchette de grand quotidien rédigée de cette manière? Écoutez bien, un condamné gracié va vivre chez le juge. Ce fut un moment pénible pour Jean ou Marie quand le procureur les accusa, et cela devant le tribunal. Mais nous avons vu que la culpabilité de ces accusés a été transférée au Christ qui est mort sur la croix, aussi bien pour Jean que pour Marie. Après les avoir acquittés, le juge invita Jean et Marie à venir passer leur vie chez lui. Le journaliste qui aurait à raconter une scène pareille ne pourrait en goûter le sel que s'il connaissait exactement la personnalité du juge. Le pardon et la justification ne nous sont attribués que si nous faisons totalement confiance à Jésus-Christ et en le reconnaissant comme étant devenu notre maître et notre sauveur. Dieu, alors, nous reçoit dans son intimité. Revêtus de la justice du Christ, nous jouissons désormais de la communion avec Dieu. Oui, chers amis, approchons-nous donc avec assurance du trône de sa grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Si j'étais juriste, j'étudierais les grands procès du passé, les plaidoiries, les preuves apportées et les conclusions des débats. On peut tirer des conclusions très importantes de la mort du Christ. D'abord, sur la croix, nous voyons démontrer la culpabilité du monde. Le péché atteint ici son sommet. Le péché n'a jamais paru plus noir et plus abject que le jour où Jésus est mort. On dit parfois que l'homme a fait des progrès depuis et que si Jésus revenait aujourd'hui, il ne serait pas crucifié, mais serait au contraire fêté comme un grand homme. Pour ma part, je suis certain que s'il revenait aujourd'hui, le Christ serait torturé et mis à mort encore plus rapidement qu'il y a 20 siècles. Peut-être les méthodes utilisées seraient-elles différentes et plus raffinées. Les pécheurs sont toujours des gens à crier « Ôte-le, débarrassons-nous de cet homme. » La nature humaine n'a pas changé, elle incline toujours vers le mal. Un regard sur la croix nous prouve que les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le verdict inéluctable de Dieu. La seconde conclusion tirée de la croix, c'est que Dieu déteste le péché et aime la justice. Il a souvent répété que l'amour qui a péché doit mourir. Et je répète parce que ma langue a fourché, vous l'avez sûrement entendu. Dieu a souvent répété que l'âme, car nous avons l'âme et notre esprit, qui a commis le péché. Et cette âme, selon les critères de Dieu, elle doit malheureusement mourir si elle reste dans le péché. Et il ne peut pas pardonner un péché qui n'aurait jamais été purifié. Car la Sainte Bible déclare bel et bien, il n'y a pas de pardon si le sang n'est pas versé. Hébreux chapitre 9, verset 22. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Pourquoi ? Car il est le garant moral de tout l'univers. Il doit rester juste, sans aucun compromis. Sa sainteté et sa justice exigent que le viol de la loi soit sanctionné. Bien des gens pensent que Dieu n'est pas si sévère que ça. Le péché, disent-ils, a des causes simplement psychologiques. Récemment, un jeune homme ayant assassiné deux autres jeunes gens fut tout de même exécuté. Les journaux se remplirent de discussions juridiques, d'arguments contre la peine de mort. L'exécution fut plusieurs fois reportée. Pourquoi a-t-il tué ? Quel événement, quelle personne ont influencé son esprit tordu? Bien des gens refusent d'être responsables de leurs actes. C'est la faute de la pauvreté des parents, du mauvais environnement, du gouvernement. Or Dieu affirme que c'est notre responsabilité. En regardant la croix, nous voyons avec quelle rigueur Dieu traite le péché. La Sainte Bible dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Romains chapitre 8, verset 32. Il l'a fait devenir péché pour nous, lui qui n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 21. Oui, si Dieu a dû envoyer son Fils unique pour mourir sur une croix pour que le péché soit puni, c'est que le péché est une chose extrêmement intolérable à ses yeux. En même temps, nous voyons que Dieu aime l'intégrité de la justice et il revêt de justice le croyant. Il le habille en quelque sorte de la justice, en raison tout simplement de la croix. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes donc vêtus, nous sommes recouverts et même protégés. Nous avons un vieux cantique dont voici les premières paroles. Jésus, par ton sang et ta justice, je suis revêtu de beauté et de gloire. L'original a été écrit en allemand par le comte Nicolas de Zinzendorf. Il ne s'agit pas de propre justice, mais bien de la justice qui vient de Dieu simplement par la foi. Philippiens chapitre 3 verset 9. Dieu agit dans la nature du croyant par le Saint-Esprit pour rendre le croyant juste intérieurement. L'apôtre Pierre montre combien cette action est liée à l'œuvre du Christ sur la croix. Il écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. » Premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Quelle autre conclusion pourrions-nous tirer du témoignage de la croix? L'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Chers amis, dans notre faiblesse d'êtres humains, quand nous ne sommes que des êtres humains, nous évaluons les péchés selon notre échelle à nous. Nous déclarons certains péchés tout petits, alors que d'autres sont très graves. Nous admettons que Dieu pardonne les petits péchés, les légers, mais nous le croyons incapable de pardonner et d'accueillir les grands pécheurs. Je me rappelle une histoire de la dernière guerre illustrant fort bien ce point. Je peux bien en parler à 88 ans. Les Alliés étaient en train de battre Hitler et son Troisième Reich et plusieurs des chefs nazis qui avaient commis les crimes les plus atroces contre l'humanité furent jugés à Nuremberg. Le monde attendait avec impatience les condamnations à mort ou à la prison distribuées à ces criminels de guerre. Un des incidents les plus extraordinaires relatifs au procès de Nuremberg fut l'histoire racontée par Henry Gerek. Il fut nommé aumônier protestant de la prison où l'on détenait le haut état-major nazi. Il considéra sa nomination comme étant une preuve difficile, plutôt une épreuve très difficile, car il n'était, d'après lui, que un humble prédicateur, c'est tout, ayant même été garçon de ferme dans le passé au Missouri, dans sa jeunesse. Donc, l'aumônier Gerek fut témoin de la conversion sincère par la foi en Jésus-Christ de plusieurs de ces grands criminels, que vous le croyez ou pas. L'un avait été un général favori de Hitler. Au début, l'aumônier fut très sceptique en ce qui concernait les confessions de foi des détenus. Il dit que la première fois qu'il a vu l'un d'entre eux se plonger dans la lecture de la Sainte Bible, il pensa « ça, c'est du cinéma ». Mais plus le temps passait, plus il changea d'avis. Car voilà son récit. Plus je l'écoutais, plus je sentais qu'il était peut-être sincère. Car il me dit ne pas avoir été un bon chrétien et il se repentit amèrement de cela. Il me dit son respect pour une nation qui, tout en le condamnant à mort, lui fournissait un secours d'ordre spirituel. Prenant sa Bible dans la main, il dit à l'aumônier « Ce livre me dit que Dieu peut aimer même un pécheur tel que moi. Quel amour merveilleux Dieu nous a montré sur la croix. » La quatrième conclusion que nous tirons de la croix, c'est qu'elle permet une véritable fraternité entre les hommes. Bien des organisations préconisent la fraternité entre les hommes, mais ce n'est qu'en étant membre de la famille de Dieu, après avoir découvert qu'il est notre Père, que les hommes deviennent vraiment nos frères. Dieu n'est pas automatiquement notre Père, sinon, par la création, à notre naissance ordinaire, il doit devenir notre Père spirituel. La Sainte Bible enseigne comment, par la croix, nous découvrons la paternité de Dieu et par conséquent la fraternité humaine. Il est notre Père, lui, qui des deux groupes d'hommes, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, ayant renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant tout cela par la paix. Éphésiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Sans l'œuvre de la croix, nous voyons amertume, intolérance, la haine, le préjugé, la cupidité et l'envie. Grâce à l'œuvre efficace de la croix, nous voyons grandir l'amour, la vie nouvelle et la véritable fraternité. La seule espérance d'une paix durable pour l'homme réside dans la croix du Christ, où tous les hommes, de toute race ou de toute nation, peuvent devenir des frères. Sans doute avez-vous entendu parler de Hansi. On dirait un nom d'homme, mais dans ce cas dont nous parlons, c'est bel et bien une femme. Une femme allemande. D'accord. Cette femme a écrit son autobiographie. Hansi raconte comment elle avait entièrement offert sa vie à Adolf Hitler et au mouvement national-socialiste, et comment après avoir débuté dans la jeunesse hitlérienne, elle finit dans la déception et un total désarroi. Et c'est alors qu'elle s'est convertie, qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Elle a écrit une lettre dans laquelle Hansi lui parle de sa première rencontre avec Corrie Ten Boom. Cette dernière, dans le livre « The Hiding Place », raconte l'expérience de sa famille pendant la dernière guerre. Cette famille, pour avoir secouru des Juifs, fut arrêtée et jetée en prison. Le père et la sœur de Corrie Ten Boom y trouvèrent la mort. C'était une histoire vraie. Un jour, Hansi et Corrie Ten Boom se trouvaient ensemble dans une réunion religieuse. Et toutes les deux, au même endroit, étaient très occupées à dédicacer leurs ouvrages. Hansi attendit un bon moment, puis elle se fraya un chemin jusqu'auprès de Corrie, car elle se sentait pressée d'aller lui demander pardon pour le mal que les nazis lui avaient fait. Hansi écarta les chasseurs d'autographes et elle s'agenouilla devant Corrie et elle lui dit au milieu de ses sanglots, « Corrie, je suis Hansi. » La réaction de Corrie Ten Boom ne fut pas seulement le pardon total, mais l'accueil et l'amour. Oui, mes chers amis, un tel incident ne peut se produire qu'entre deux chrétiennes, et cela à cause de la croix. J'ai oublié de dire que Corrie Ten Boom était hollandaise. Juive. Le capitaine Mitsuo Fujida est l'officier japonais d'aviation qui commanda l'attaque de Pearl Harbor. Il raconte qu'il était très curieux d'apprendre de la bouche des prisonniers de guerre japonais revenant d'Amérique après la guerre, quel avait été le traitement qui leur avait été infligé. Un ancien prisonnier lui dit qu'il était incapable de conserver dans son cœur de la haine, excusez-moi, de mon émotion, de la haine dans son cœur contre leurs ennemis. Une jeune fille en particulier avait été très serviable envers lui et tous les camarades de son camp. Leur cœur avait été touché par sa tendresse et son amour véritable. Ils s'étaient demandé la raison de cette bonté envers eux et ils furent stupéfaits d'apprendre que c'était parce que ses parents avaient été tués par l'armée japonaise. Cette jeune fille leur raconta que ses parents étaient missionnaires protestants aux Philippines, obligés de se réfugier dans la montagne lorsque les Japonais débarquèrent. Quand les soldats japonais les découvrirent, ils les accusèrent d'être des espions et les fusillèrent. Avant d'être passés par les armes, ils demandèrent 30 minutes pour pouvoir prier. Pardonnez-moi, je dois essuyer mes yeux parce que les larmes m'empêchent de boire. On leur accorda ces 30 minutes. La jeune fille était certaine que ses parents consacrèrent ces 30 minutes à prier pour le pardon de leur bourreau. Et c'est à cause de cette prière que la haine de la jeune fille avait été remplacée par de l'amour. Oui, le capitaine Fourida fut incapable de concevoir un amour de cette nature. Bien des mois plus tard, alors qu'il sortait d'une gare, un inconnu lui mit dans la main une brochure. C'était l'histoire du sergent Jacob de Schatzer, capturé par les Japonais et torturé, emprisonné pendant 40 mois. Dans son camp de prisonniers, il lut la Bible et reçut le Christ. La parole de Dieu déracina dans son cœur sa haine contre les Japonais. Et ainsi la remplaça par un tel amour qu'il se sentit pressé après la guerre d'aller au Japon, oui, pour parler aux Japonais du merveilleux amour du Christ. Et là-dessus, le capitaine Fukida acheta une Bible et se mit à la lire. Il arriva au récit de la crucifixion du Christ et fut frappé par ce texte qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Saint Luc chapitre 23, verset 34. Jésus pria pour les soldats qui allaient le crucifier et lui percer le côté d'un coup de lance. Le capitaine Fukida a raconté dans son livre autobiographique « From Pearl Harbor to Golgotha » de Pearl Harbor au Golgotha. Comment il découvrit la source du miracle de l'amour capable de pardonner aux ennemis et comment il put alors comprendre l'histoire de la jeune Américaine dont les parents avaient été fusillés et celle du sergent de Schatzer. Question personnelle auquel la croix répond. Pourquoi mes problèmes sont-ils insolubles? Cette question me fait penser à une histoire de Peanut, le héros célèbre d'une bande dessinée. Ce dessin représente Lucy en psychiatre soignant son client Charlie Brown. Charlie vient de se faire battre lors d'un jeu de football. Il est abattu et très déprimé. Lucy lui explique que la vie est composée d'une succession de hauts et de bas. Mais s'écrie Charlie, je veux les hauts et je ne veux pas les bas. J'ai peur que trop souvent, les prédicateurs de l'Évangile donnent l'impression que ceux qui acceptent Jésus-Christ n'ont plus jamais de problème à résoudre. Mais ça, c'est absolument faux. Mais le chrétien n'est plus seul, c'est ça. Il n'est plus tout seul en face de tous ses problèmes. Je connais une personne qui est paraplégique depuis plus de 30 ans. En dépit d'immenses problèmes vraiment insolubles, cette femme a appris non seulement à supporter sa situation, mais même à être radieuse et triomphante. Elle a été pour beaucoup une bénédiction et a mené bien des gens au Christ. Le docteur Paul Tournier, le grand psychologue suisse, a écrit que nous devons savoir qu'au cours de notre vie chrétienne, nous rencontrons à chaque instant des circonstances nouvelles auxquelles nous devons nous adapter. Si je conduis ma voiture en ville, je ne peux pas tenir le volant rigide et garder une vitesse uniforme. Je dois m'arrêter, repartir, changer de vitesse et sans cesse m'adapter. C'est vrai de notre vie quotidienne également. C'est le prix de notre humanité qu'il faut payer. C'est le prix et en partie compté en peine et en problème. Mais le Christ a promis d'être tous les jours avec nous. Je trouve dans le 34e psaume trois affirmations concernant nos problèmes. Voyons ça de plus près. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 7. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Verset 18. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Voyez-vous, la vie chrétienne n'est pas une évasion hors de, mais un passage à travers la vie. Ces textes annoncent aux croyants une délivrance à travers la difficulté et non pas hors de cette difficulté. Le savant anglais Arthur Way a exprimé ainsi cette vérité. La délivrance n'est pas une esquive qui nous épargne la crise de l'épreuve. Nous ne pouvons éviter d'entrer dans la situation difficile, mais il s'agit d'en sortir indemne. Une autre question nous hante. Je me sens tellement coupable, comment être soulagé ? Le complexe de culpabilité est terriblement, on peut dire, débilitant. Il peut détruire notre attitude, nos relations personnelles avec les autres. Et parfois, nous nous sentons coupables d'actes répréhensibles que nous avons vraiment commis, dont nous devons assumer la responsabilité et pour lesquels nous devons accepter le pardon de Dieu. Beaucoup de psychiatres ont dit qu'un large pourcentage des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques pourraient être guéris si seulement ils pouvaient admettre le fait qu'ils ont été pardonnés. Pour échapper à ces complexes, il est si facile d'accuser les autres ou les choses. Anna Russell, la comédienne britannique, a écrit un petit poème sur la culpabilité. Voici. Elle dit « J'ai été me faire psychanalyser chez un psychiatre pour découvrir pourquoi j'ai frappé mon chat et poché les yeux de ma copine. Il m'a mise sur son divan pour voir ce qu'il trouverait. Et voici ce qu'il a dragué dans les égouts de mon subconscient. Quand j'avais 1 an, maman a caché ma poupée dans une malle. Et c'est pour cela que je me saoule aujourd'hui. À 2 ans, j'ai souffert d'ambivalence envers mes frères. C'est pour cela que j'empoisonne tous mes amants. Je suis heureuse d'avoir bien appris ma leçon, et quand je fais le mal, c'est toujours la faute des autres. Pour certains, la culpabilité est une excuse. Ils n'acceptent pas le pardon qui leur est offert. C'est difficile à croire. On a du mal à accepter que Dieu passe perpétuellement l'éponge et nous laisse partir sans payer. Et c'est pourtant le message que l'Évangile nous répète. Quand nous nous cramponnons à notre culpabilité, nous refusons d'honorer Dieu et nous handicapons ainsi nos vies dangereusement. Le pardon de notre péché est une occasion que le Christ nous offre sur la croix. Si nous acceptons vraiment son pardon et si nous sommes prêts à nous pardonner à nous-mêmes, alors nous serons vraiment soulagés. Lorsque on extrait des ordures de Londres tout ce qui est récupérable des péniches, remonte la Tamise et sont remorqués à plusieurs kilomètres en mer, et là les déchets sont immergés. Il paraît que en quelques minutes l'eau de mer redevient transparente et limpide comme auparavant. C'est une illustration de la façon dont nos péchés pardonnés ont été enfouis par Dieu au fond de la mer. Corrie ten Boom raconte ainsi l'histoire d'une petite fille qui avait cassé une des précieuses tasses à café de sa maman. Elle courut en sanglotant vers sa mère et lui dit « Oh maman, j'ai cassé ta belle tasse. » Sa mère lui dit « Je sais que tu es triste et je te pardonne, mais cesse maintenant de pleurer. » La maman balaya, ramassa les morceaux de la tasse brisée et les mit dans la poubelle. Alors la petite fille se mit à jouir de son sentiment de culpabilité. Elle chercha les débris de la tasse dans les ordures et revint vers sa mère en pleurant. « Tu sais, maman, c'est moi qui ai cassé ta jolie tasse. » Cette fois, la mère parla plus sévèrement. Va tout de suite porter ces morceaux de tasse dans le bac à ordures et ne les reprends plus jamais. Ne sois pas stupide. Je t'ai dit que je t'ai pardonné. Ne pleure plus et ne touche plus à ces débris. Le sentiment de culpabilité disparaît après la confession et la purification. Si nous confessons nos péchés, il, Jésus-Christ, est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Pourtant, l'histoire du péché de David, psaume 51, montre que le pardon n'efface pas les conséquences naturelles de notre péché. Un meurtre peut être pardonné, mais le pardon ne rendra pas la vie à la victime. On raconte en Écosse une histoire de marin qui avait passé la journée à la pêche. Le soir, ils entrèrent dans une petite auberge pour prendre le thé. En général, c'est plutôt pour boire une Guinness. Un des pêcheurs a eu un grand geste. Il a voulu décrire en quelque sorte la taille de l'immense poisson que lui avait échappé. C'était pas un Marseillais, mais tout comme. Et ce faisant, étendit ses mains au moment où la jeune serveuse apporta la tasse de thé. Une des mains heurta la tasse qui alla s'écraser sur le mur fraîchement blanchi et instantanément une grande tache brune s'étala sur le mur. Le pauvre homme s'excusa abondamment et était extrêmement confus quand un des hôtes se leva et dit « Mais ne vous faites pas de soucis. » Tirant un crayon de sa poche, il se mit à dessiner autour de la tache brune. Bientôt apparut l'image d'un magnifique cerf royal avec ses gigantesques bois déployés. Or, l'artiste était Sir Edwin Landseer, un des peintres animaliers les plus connus d'Angleterre. Cette histoire m'a semblé illustrer magnifiquement ce fait que si nous confessons à Dieu non seulement nos fautes, mais aussi nos erreurs, il peut les utiliser pour notre bien et pour sa gloire. Parfois, il nous est plus difficile d'apporter à Dieu nos erreurs et nos bêtises que nos péchés. Les erreurs et les sottises semblent si stupides, alors que nos péchés appartiennent à l'activité normale de notre nature humaine. Mais la Sainte Bible nous apprend, notez Romains chapitre 8, verset 28, que si nous les confions à Dieu, il pourra les faire concourir à notre bien et à sa gloire. Pour faire un cake, vous prenez de la farine, de la levure, du bicarbonate de soude, du chocolat amer et d'autres ingrédients qui, isolément, n'ont pas toujours très bon goût, mais qui, mis ensemble, font un excellent cake. Ainsi en est-il de nos erreurs et même de nos péchés qui en soi ne sont pas bons, mais qui, confiés à Dieu dans un élan sincère de foi toute simple, sont transformés et élaborés ensemble de telle manière qu'ils contribuent à sa gloire et à notre bien. Une autre question se pose. Dois-je vraiment comprendre tout ce qui est impliqué dans la mort du Christ? Les profondeurs de l'amour de Dieu, envoyant son Fils pour payer un prix aussi incommensurable, sont insondables pour tout esprit humain. Nous devons l'accepter par la foi, ou alors nous retrouvons le poids du fardeau de notre culpabilité. Le salut, il se trouve en Jésus-Christ seul, et c'est par la foi seule, pour la seule gloire de Dieu. Et Jésus n'a jamais dit « Comprends seulement », mais il a dit « Crois seulement ». Chers amis, nous arrêtons notre étude ici pour aujourd'hui et demain matin, Dieu voulant, je vous donnerai la prochaine étude qui aura comme titre « Jésus-Christ est vivant ». Je voudrais vous demander exceptionnellement, parce que d'habitude je termine par une prière, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, essayez de réécouter, serait-ce que certaines parties de cette étude, et si vous avez noté quelques versets bibliques, de les lire attentivement et de méditer un instant. Ensuite, si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, simplement de faire une prière avec les mots à vous. Vous pouvez simplement dire, et ça suffira, Jésus-Christ, j'ai compris que j'étais un ou une pécheresse et que je dois accepter, si je désire être sûr que si je meurs, je ne serai pas perdu pour l'éternité, mais sauvé pour l'éternité. Alors, je t'accepte maintenant pour être mon sauveur et Seigneur. C'est tout ce que vous avez à faire avec vos mots à vous, simplement. Et je vous dirai simplement que vous serez béni pour le restant de votre vie, car elle va totalement être changée. Je vous dis maintenant au revoir. Sachez que je vous aime beaucoup. Mais, même que je vous aime sincèrement, avec l'amour agapé, jamais je ne pourrai vous aimer autant que Jésus-Christ vous aime. Sachez que ça, c'est une réalité. Au revoir, mes très chers amis, à demain matin, Dieu voulant. Soyez bénis. Au revoir.